Chapitre 4. Serment aux joueurs. Geneviève. Le souper. La tentative d'enlèvement, si contestable qu'elle fût, puisqu'il n'y avait eu aucun commencement d'exécution, avait excité la colère des uns et l'intérêt des autres. Ce qui corroborait d'ailleurs cet événement de probabilité presque matérielle, c'est que le comité de sûreté générale apprit que depuis 3 semaines ou 1 mois, une foule d'émigrés était rentrée en France par différents points de la frontière. Il était évident que des gens qui risquaient ainsi leur tête ne la risquaient pas sans dessein et que ce dessein était, selon toute probabilité, de concourir à l'enlèvement de la famille royale. Déjà sur la proposition du conventionnel Osselin avait été promulgué le décret terrible qui condamnait à mort tout émigré convaincu d'avoir remis le pied en France, tout Français convaincu d'avoir eu des projets d'émigration, tout particulier convaincu d'avoir aidé dans sa fuite ou dans son retour un émigré ou un émigrant, enfin tout citoyen convaincu d'avoir donné asile à un émigré. Cette terrible loi inaugurait la terreur, il ne manquait plus que la loi sur les suspects. Le chevalier de Maison Rouge était un ennemi trop actif et trop audacieux pour que sa rentrée dans Paris et son apparition au Temple n'entraînent à ce point les plus graves mesures. Des perquisitions, plus sévères qu'elles n'avaient jamais été, furent exécutées dans une foule de maisons suspectes. Mais, hormis la découverte de quelques femmes émigrées qui se laissèrent prendre, et de quelques vieillards qui ne se soucièrent pas de disputer aux bourreaux le peu de jours qui leur restaient, les recherches n'aboutirent à aucun résultat. Les sections, comme on le pense bien, furent à la suite de cet événement fort occupées pendant plusieurs jours, et par conséquent, le secrétaire de la section Le Pelletier, l'une des plus influentes de Paris, eut peu de temps pour penser à son inconnu. D'abord, et comme il l'avait résolu en quittant la rue Vieille-Saint-Jacques, il avait tenté d'oublier, mais, comme lui avait dit son ami Lorrain, « en songeant qu'il faut qu'on oublie, on se souvient ». Maurice, cependant, n'avait rien dit ni rien avoué. Il avait renfermé dans son cœur tous les détails de cette aventure qui avait pu échapper à l'investigation de son ami. Mais celui-ci, qui connaissait Maurice pour une joyeuse, expansive nature, et qu'il voyait maintenant sans cesse rêveur et cherchant la solitude, se doutait bien, comme il le disait, que ce coquin de Cupidon avait passé par là. Il est à remarquer que, parmi ces 18 siècles de monarchie, la France a eu peu d'années aussi mythologiques que l'an de grâce 1793. Cependant, le chevalier n'était pas pris. On n'entendait plus parler de lui. La reine, veuve de son mari et orpheline de son enfant, se contentait de pleurer, quand elle était seule entre sa fille et sa sœur. Le jeune dauphin commençait, aux mains du cordonnier Simon, ce martyr qui devait, en 2 ans, le réunir à son père et à sa mère. Il y eut un instant de calme. Le volcan montagnard se reposait avant de dévorer les Girondins. Maurice sentit le poids de ce calme, comme on sent la lourdeur de l'atmosphère en temps d'orage, et, ne sachant que faire d'un loisir qui le livrait tout entier à l'ardent d'un sentiment qui, s'il n'était pas l'amour, lui ressemblait fort, il relut la lettre, baisa son beau saphir et résolut, malgré le serment qu'il avait fait, d'essayer une dernière tentative, se promettant bien que celle-là serait la dernière. Le jeune homme avait bien pensé à une chose, c'était de s'en aller à la section du Jardin des Plantes et là de demander des renseignements au secrétaire son collègue. Mais cette première idée, et nous pourrions même dire cette seule idée qu'il avait eue, que sa belle inconnue était mêlée à quelque drame politique, le retint. L'idée qu'une indiscrétion de sa part pouvait conduire cette femme charmante à la place de la Révolution et faire tomber cette tête d'ange sur l'échafaud faisait passer un horrible frisson dans les veines de Maurice. Il se décida donc à tenter l'aventure seul et sans aucun renseignement. Son plan d'ailleurs était bien simple. Les listes placées sur chaque porte devaient lui donner les premiers indices, et puis des interrogatoires au concierge devaient achever d'éclaircir ce mystère. En sa qualité de secrétaire de la section Le Pelletier, il avait plein et entier droit d'interrogatoire. D'ailleurs, Maurice ignorait le nom de son inconnu, mais il devait être conduit par les analogies. Il était impossible qu'une si charmante créature n'eût pas un nom en harmonie avec sa forme, quelque nom de sylphide, de fée ou d'ange. Maurice revêtut une carmagnole de gros drap brun, se coiffa du bonnet rouge des grands jours et partit pour son exploration sans prévenir personne. Il avait à la main un de ces gourdins noueux qu'on appelait une constitution, et emmanché à son poignet vigoureux, cette arme avait la valeur de la massue d'Hercule. Il avait dans sa poche sa commission de secrétaire de la section Lepelletier, c'était à la fois sa sûreté physique et sa garantie morale. Il se mit donc à parcourir de nouveau la rue Saint-Victor, la rue Vieille-Saint-Jacques, lisant, à la lueur du jour défaillant, tous ces noms écrits d'une main plus ou moins exercée sur le panneau de chaque porte. Maurice en était à sa 100e maison et par conséquent à sa 100e liste, sans que rien eût pu lui faire croire encore qu'il fût le moins du monde sur la trace de son inconnu, qu'il ne voulait reconnaître qu'à la condition que s'ouvrirait à ses yeux un nom dans le genre de celui dont il avait rêvé, lorsqu'un brave cordonnier, voyant l'impatience répandue sur la figure du lecteur, ouvrit sa porte, sortit avec sa courroie de cuir et son poinçon, et, regardant Maurice par-dessus ses lunettes, « Veux-tu avoir quelques renseignements sur les locataires de cette maison ?» dit-il. « En ce cas, parle, je suis prêt à te répondre. »« Merci, citoyen, » balbutia Maurice, « mais je cherchais le nom d'un ami. » « Dis ce nom, citoyen, je connais tout le monde dans ce quartier. Où demeurait cet ami ?»«
Il demeurait, je crois, à rue Vieille-Saint-Jacques, mais j'ai peur qu'il n'ait déménagé. »«
Comment se nommait-il ? Il faut que je sache son nom. » Maurice, surpris, resta un instant hésitant, puis il prononça le premier mot qui se présenta à sa mémoire. « René, » dit-il. « Et son état ?» Maurice était entouré de tanneries. « Garçon tanneur, » dit-il. « Ah, dans ce cas, » dit un bourgeois qui venait de s'arrêter là et qui regardait Maurice avec une certaine bonhomie, qui n'était pas exempte de méfiance, « il faudrait s'adresser au maître. » « Ah, c'est juste ça, » dit le portier, « c'est très juste. Les maîtres savent les noms de leurs ouvriers. Et voilà le citoyen Dixmer, tiens, qui est le directeur de la tannerie et qui a plus de 50 ouvriers dans sa tannerie. Il peut te renseigner, lui. » Maurice se retourna et vit un bon bourgeois, d'une taille élevée, d'un visage placide, d'une richesse de costume qui annonçait l'industriel opulent. Seulement, comme l'a dit le citoyen portier, continua le bourgeois, il faudrait savoir le nom de famille. Ma foi, dit Maurice, que cette espèce d'interrogatoire commençait à impatienter. Le nom de famille, je ne le sais pas. Comment, dit le bourgeois, avec un sourire dans lequel Maurice crut remarquer plus d'ironie qu'il n'en voulait laisser paraître. Comment, citoyen, tu ne sais pas le nom de famille de ton ami? Non. « Ah, en ce cas, il est probable que tu ne le retrouveras pas. » Et le bourgeois, saluant gracieusement Maurice, fit quelques pas et entra dans une maison de la vieille rue Saint-Jacques. « Le fait est que, si tu ne sais pas son nom de famille, » dit le portier. « Eh bien non, je ne le sais pas, » dit Maurice, qui n'aurait pas été fâché pour avoir une occasion de faire déborder sa mauvaise humeur, qu'on lui chercha querelle, et même, il faut le dire, qu'il n'était pas éloigné d'en chercher une exprès. « Qu'as-tu à dire à cela ?»«
Rien, citoyen, rien du tout. Seulement, si tu ne sais pas le nom de ton ami, il est probable, comme te l'a dit le citoyen Dixmer, il est probable que tu ne le retrouveras point. »
Et le citoyen portier rentra dans sa loge en haussant les épaules. Maurice avait bonne envie de rosser le citoyen portier, mais ce dernier était vieux, sa faiblesse le sauva. 20 ans de moins, et Maurice eut donné le spectacle scandaleux de l'égalité devant la loi, mais de l'inégalité devant la force. D'ailleurs, la nuit allait tomber, et Maurice n'avait plus que quelques minutes de jour. Il en profita pour s'engager d'abord dans la première ruelle, ensuite dans la seconde. Il en examina chaque porte, il en sonda chaque recoin, regarda par-dessus chaque palissade, se hissa au-dessus de chaque mur, lança un coup d'œil dans l'intérieur de chaque grille, par le trou de chaque serrure, heurta quelques magasins déserts sans avoir de réponse, enfin consuma près de 2 heures dans cette recherche inutile. 9 heures du soir sonnèrent. Il faisait nuit close, on n'entendait plus aucun bruit. Maurice, désespéré, allait faire un mouvement rétrograde quand, tout à coup, au détour d'une étroite allée, il vit briller une lumière. Il s'aventura dans le passage sombre, sans remarquer qu'au moment même où il s'y enfonçait, une tête curieuse qui, depuis un quart d'heure, du milieu d'un massif d'arbres s'élevant au-dessus de la muraille, suivait tous ses mouvements, venait de disparaître avec précipitation derrière cette muraille.
Quelques secondes après que la tête eut disparu, trois hommes, sortant par une petite porte percée dans cette même muraille, allèrent se jeter dans l'allée où venait de se perdre Maurice, tandis qu'un quatrième, pour plus grande précaution, fermait la porte de cette allée. Maurice, au bout de l'allée, avait trouvé une cour. C'était de l'autre côté de cette cour que brillait la lumière. Il frappa à la porte d'une maison pauvre et solitaire, mais au premier coup qu'il frappa, la lumière s'éteignit. Maurice redoubla, mais nul ne répondit à son appel. Il vit que c'était un parti pris de ne pas répondre. Il comprit qu'il perdait inutilement son temps à frapper, traversa la cour et rentra sous l'allée. En même temps, la porte de la maison tourna doucement sur ses gonds, trois hommes en sortirent et un coup de sifflet retentit. Maurice se retourna et vit trois ombres à la distance de deux longueurs de son bâton. Dans les ténèbres, à la lueur de cette espèce de lumière qui existe toujours pour les yeux depuis longtemps habitués à l'obscurité, reluisaient trois lames aux reflets fauves. Maurice comprit qu'il était cerné. Il voulut faire le moulinet avec son bâton, mais l'allée était si étroite que son bâton toucha les deux murs. Au même instant, un violent coup porté à la tête l'étourdit. C'était une agression imprévue faite par les quatre hommes qui étaient sortis de la muraille. Sept hommes se jetèrent à la fois sur Maurice et, malgré une résistance désespérée, le terrassèrent, lui lièrent les mains et lui bandèrent les yeux. Maurice n'avait pas jeté un cri, n'avait pas appelé à l'aide. La force et le courage veulent toujours se suffire à eux-mêmes et semblent avoir honte d'un secours étranger. D'ailleurs, Maurice eut appelé que dans ce quartier désert, personne ne fût venu. Maurice fut donc lié et garrotté sans que, nous l'avons dit, il eût poussé une plainte. Il avait réfléchi au reste que si on lui bandait les yeux, ce n'était pas pour le tuer tout de suite. À l'âge de Maurice, tout répit est un espoir. Il recueillit donc toute sa présence d'esprit et attendit. « Qui es-tu ? » demanda une voix encore animée par la lutte. « Je suis un homme que l'on assassine, » répondit Maurice. « Il y a plus. Tu es un homme mort si tu parles haut, que tu appelles ou que tu cries. Es-tu prêt à répondre à mes questions ?»« Questionné d'abord, je verrai si je dois répondre. Qui t'envoie ici ?»« Personne. Tu mens. » Maurice fit un mouvement terrible pour dégager ses mains. La chose était impossible. « Je ne mens jamais, » dit-il. En tout cas, que tu viennes de ton propre mouvement ou que tu sois envoyé, tu es un espion. Et vous, des lâches. Des lâches, nous? Oui, vous êtes sept ou huit contre un homme garrotté et vous insultez cet homme. Lâche, lâche, lâche. Cette violence de Maurice, au lieu d'aigrir ses adversaires, parut les calmer. Cette violence même était la preuve que le jeune homme n'était pas ce dont on l'accusait. Un véritable espion eût tremblé et demandé grâce. « Il n'y a pas d'insulte là, » dit une voix plus douce, mais en même temps plus impérieuse qu'aucune de celles qui avaient parlé. « Dans le temps où nous vivons, on peut être espion sans être malhonnête homme. Seulement, on risque sa vie. »« Soyez le bienvenu, vous qui avez prononcé cette parole. J'y répondrai loyalement. »« Qu'êtes-vous venu faire dans ce quartier ?»« Y chercher une femme. » Un murmure d'incrédulité accueillit cette excuse. Ce murmure grossit et devint un orage. « Tu mens, » reprit la même voix. « Il n'y a point de femme, et nous savons ce que nous entendons par femme. Il n'y a point de femme à poursuivre dans ce quartier. Avoue ton projet, ou tu mourras. »« Allons donc, » dit Maurice, « vous ne me tueriez pas pour le plaisir de me tuer, à moins que vous ne soyez de véritables brillants. » Et Maurice fit un second effort plus violent et plus inattendu encore que le premier pour dégager ses mains de la corde qui les liait. Mais soudain, un froid douloureux et aigu lui déchira la poitrine. Maurice fit malgré lui un mouvement en arrière. « Ah, tu sens ça ?» dit un des hommes. « Eh bien, il y a encore 8 pouces, pareil au pouce avec lequel tu viens de faire connaissance. » « Alors achevez, » dit Maurice avec résignation, « ce sera fini tout de suite au moins. » « Qui es-tu ? Voyons, » dit la voix douce et impérieuse à la fois. « Je suis Maurice Lindet. »« Quoi ? » s'écria une voix. « Maurice Lindet, le révolution, le patriote, Maurice Lindet, secrétaire de la section Le Pelletier. » Ces paroles furent prononcées avec tant de chaleur que Maurice vit bien qu'elles étaient décisives. Y répondre, c'était, d'une façon ou de l'autre, fixer invariablement son sort. Maurice était incapable d'une lâcheté. Il se redressa en vrai spartiate et dit d'une voix ferme, « Oui, Maurice Lindet, oui, Maurice Lindet, le secrétaire de la section Le Pelletier. Oui, Maurice Lindet, le patriote, le révolutionnaire, le jacobin. Maurice Lindet, enfin, dont le plus beau jour sera celui où il mourra pour la liberté. » Un silence de mort accueillit cette réponse. Maurice Lindet présentait sa poitrine, attendant d'un moment à l'autre que la lame, dont il avait senti la pointe seulement, se plongeât tout entière dans son cœur. « Est-ce bien vrai ?» dit après quelques secondes une voix qui trahissait quelque émotion. « Voyons, jeune homme, ne mens pas. Fouillez dans ma poche, dit Maurice, et vous trouverez ma commission. Regardez sur ma poitrine, et si mon sang ne les a pas effacées, vous trouverez mes initiales, un M et un L, brodés sur ma chemise. » Aussitôt, Maurice se sentit enlevé par des bras vigoureux. Il fut porté encore pendant un espace assez court. Il entendit ouvrir une première porte, puis une seconde. Seulement, la seconde était plus étroite que la première, car à peine si les hommes qui le portaient y purent passer avec lui. Les murmures et les chuchotements continuaient. « Je suis perdu, se dit à lui-même Maurice. Ils vont me mettre une pierre au cou et me jeter dans quelque trou de la Bièvre. » Mais au bout d'un instant, il sentit que ceux qui le portaient montaient quelques marches. Un air plus tiède frappa son visage et on le déposa sur un siège. Il entendit fermer une porte à double tour, des pas s'éloignèrent. Il crut sentir qu'on le laissait seul. Il prêta l'oreille avec autant d'attention que peut le faire un homme dont la vie dépend d'un mot, et il crut entendre que cette même voix, qui avait déjà frappé son oreille par un mélange de fermeté et de douceur, disait aux autres « Délibérons ». Un quart d'heure s'écoula qui parut un siècle à Maurice. Rien de plus naturel, jeune, beau, vigoureux, soutenu dans sa force par 100 amis dévoués, avec lesquels il rêvait parfois à l'accomplissement de grandes choses, il se sentait tout à coup, sans préparation aucune, exposé à perdre la vie dans un guet-apens ignoble. Il comprenait qu'on l'avait renfermé dans une chambre quelconque, mais était-il surveillé? Il essaya un nouvel effort pour rompre ses liens. Ses muscles d'acier se gonflèrent et se roidirent. La corde lui entra dans la chair, mais ne se rompit pas. Le plus terrible, c'est qu'il avait les mains liées derrière le dos et qu'il ne pouvait arracher son bandeau. S'il avait pu voir, peut-être eût-il pu fuir. Cependant, ces diverses tentatives s'étaient accomplies sans que personne s'y opposât, sans que rien bougeât autour de lui. Il en augura qu'il était seul. Ses pieds foulaient quelque chose de moelleux et de sourd, du sable, de la terre grasse peut-être. Une odeur âcre et pénétrante frappait son odorat et dénonçait la présence de substances végétales. Maurice pensa qu'il était dans une serre ou dans quelque chose de pareil. Il fit quelques pas, heurta un mur, se retourna pour tâter avec ses mains, sentit des instruments aratoires et poussa une exclamation de joie. Avec des efforts inouïs, il parvint à explorer tous ses instruments les uns après les autres. Sa fuite devenait alors une question de temps, si le hasard ou la providence lui donnait 5 minutes, et si, parmi ses ustensiles, il trouvait un instrument tranchant, il était sauvé. Il trouva une bêche. Ce fut, par la manière dont Maurice était lié, toute une lutte pour retourner cette bêche de façon à ce que le fer fût en haut. Sur ce fer, qu'il maintenait contre le mur avec les reins, il coupa, ou plutôt il usa la corde qui lui liait les poignets. L'opération était longue, le fer de la bêche tranchait lentement. La sueur lui coulait au front. Il entendit comme un bruit de pas qui se rapprochait. Il fit un dernier effort, inouï, violent, suprême. La corde, à moitié usée, se rompit. Cette fois, ce fut un cri de joie qu'il poussa. Il était sûr, du moins, de mourir en se défendant. Maurice arracha le bandeau de dessus ses yeux. Il ne s'était pas trompé. Il était dans une espèce, non pas de serre, mais de pavillon, où on l'avait serré avec quelques-unes de ces plantes grasses qui ne peuvent passer la mauvaise saison en plein air. Dans un coin étaient ses instruments de jardinage, dont l'un lui avait rendu un si grand service. En face de lui était une fenêtre. Il s'élança vers la fenêtre, elle était grillée, et un homme armé d'une carabine était placé en sentinelle devant. De l'autre côté du jardin, à 30 pas de distance à peu près, s'élevait un kiosque qui faisait pendant à celui où était Maurice. Une jalousie était baissée, mais à travers cette jalousie brillait une lumière. Il s'approcha de la porte et écouta. Une autre sentinelle passait et repassait devant la porte. C'était ses pas qu'il avait entendus. Mais au fond du corridor retentissaient des voix confuses. La délibération avait visiblement dégénéré en discussion. Maurice ne pouvait entendre avec suite ce qui se disait. Cependant, quelques mots pénétraient jusqu'à lui, et parmi ces mots, comme si pour ceux-là seuls la distance était moins grande, il entendait les mots « espion »,« poignard »,« mort ». Maurice redoubla d'attention. Une porte s'ouvrit, et il entendit plus distinctement « Oui, disait une voix, oui, c'est un espion, il a découvert quelque chose, il est certainement envoyé pour surprendre nos secrets, en le délivrant, nous courons risque qu'il nous dénonce. » « Mais sa parole, dit une voix, sa parole, il la donnera, puis il la trahira. Est-ce qu'il est gentilhomme, puisqu'on puisse se fier à sa parole ?» Maurice grinça des dents à cette idée que quelques gens avaient encore la prétention qu'il fallut être gentilhomme pour garder la foi jurée. « Mais nous connaît-il pour nous dénoncer ?»« Non, certes, il ne nous connaît pas, il ne sait pas ce que nous faisons, mais il sait l'adresse, il reviendra bien accompagné. » L'argument parut péremptoire. « Eh bien, dit la voix, qui déjà plusieurs fois avait frappé Maurice, comme devant être celle du chef, c'est donc décidé. Mais oui, 100 fois oui, je ne vous comprends pas avec votre magnanimité, mon cher. Si le comité de salut public nous tenait, vous verriez s'il ferait toutes ces façons. Ainsi donc, vous persistez dans votre décision, messieurs. Sans doute, vous n'allez pas, j'espère, vous y opposer. Je n'ai qu'une voix, messieurs, elle a été pour qu'on lui rendît sa liberté. » Vous en avez 6, elles ont toutes été pour la mort, va donc pour la mort. » La sueur qui coulait sur le front de Maurice se glaça tout à coup. « Il va crier, hurler, dit la voix. Avez-vous au moins éloigné Madame Dixmer ? Elle ne sait rien, elle est dans le pavillon en face. » « Madame Dixmer, murmura Maurice, je commence à comprendre. Je suis chez ce maître tanneur qui m'a parlé dans la vieille rue Saint-Jacques et qui s'est éloigné en se riant de moi quand je n'ai pas pu lui dire le nom de mon ami. Mais quel diable d'intérêt un maître tanneur peut-il avoir à m'assassiner ? En tout cas, dit-il, avant qu'on m'assassine, j'en tuerai plus d'un. » Et il bondit vers l'instrument inoffensif qui, dans sa main, allait devenir une arme terrible. Puis il revint derrière la porte et se plaça de façon à ce que, se déployant, elle le couvrit. Son cœur palpitait à briser sa poitrine et, dans le silence, on entendait le bruit de ses palpitations. Tout à coup, Maurice frissonna de la tête aux pieds. Une voix avait dit « Si vous m'en croyez, vous casserez tout bonnement une vitre et à travers les barreaux, vous le tuerez d'un coup de carabine. » « Oh, non, non, pas d'explosion, dit une autre voix. Une explosion peut nous trahir. Ah, vous voilà, Dixmer, et votre femme ? Je viens de regarder à travers la jalousie. Elle ne se doute de rien, elle lit. Dixmer, vous allez nous fixer. Est-ce que vous êtes pour un coup de carabine ou pour un coup de poignard ? Soit pour le poignard. Allons. Allons, répétèrent ensemble 5 ou 6 voix. Maurice était un enfant de la Révolution, un cœur de bronze, une âme athée, comme il y en avait beaucoup à cette époque-là, mais à ce mot « allons » prononcé derrière cette porte qui seule le séparait de la mort, il se rappela le signe de la croix que sa mère lui avait appris lorsque, tout enfant, elle lui faisait dire ses prières à genoux. Les pas se rapprochèrent, mais ils s'arrêtèrent, puis la clé grinça dans la serrure et la porte s'ouvrit lentement. Pendant 7 minutes qui venait de s'écouler, Maurice s'était dit « Si je perds mon temps à frapper, je serai tué. En me précipitant sur les assassins, je les surprends, je gagne le jardin, la ruelle, je me sauve peut-être. » Aussitôt prenant un élan de lion, en jetant un cri sauvage où il y avait encore plus de menaces que d'effroi, il renversa les 2 premiers hommes qui, le croyant lié et les yeux bandés, étaient loin de s'attendre à une pareille agression, écarta les autres, franchit grâce à ses jarrets d'acier 10 toises en 1 seconde, vit au bout du corridor une porte donnant sur le jardin, toute grande ouverte, s'élança, sauta 10 marches, se trouva dans le jardin et, s'orientant du mieux qu'il lui était possible, courut vers la porte. La porte était fermée à 2 verrous et à la serrure. Maurice tira les 2 verrous, voulut ouvrir la serrure, mais il n'y avait pas de clé. Pendant ce temps, ceux qui le poursuivaient étaient arrivés sur le perron. Ils l'aperçurent. « Ah, le voilà » crièrent-ils. « Tirez dessus, Dixmer, tirez dessus, tuez, tuez !» Maurice poussa un rugissement. Il était enfermé dans le jardin. Il mesura de l'œil les murailles, elles avaient 10 pieds de haut. Tout cela fut rapide comme 1 seconde. Les assassins s'élancèrent à sa poursuite. Maurice avait 30 pas d'avance à peu près sur eux. Il regarda tout autour de lui avec ce regard de condamné qui demande l'ombre d'une chance de salut pour en faire une réalité. Il aperçut le kiosque, la jalousie, derrière la jalousie, une lumière. Il ne fit qu'un bond, de 10 pieds, saisit la jalousie, l'arracha, passa au travers de la fenêtre en la brisant et tomba dans une chambre éclairée où lisait une femme assise près du feu. Cette femme se leva épouvantée en criant au secours. « Range-toi, Geneviève, range-toi » cria la voix de Dixmer. « Range-toi, que je le tue !» Et Maurice vit s'abaisser à 10 pas de lui le canon de la carabine. Mais à peine la femme l'eut-elle regardé qu'elle jeta un cri terrible et qu'au lieu de se ranger, comme le lui ordonnait son mari, elle se jeta entre lui et le canon du fusil. Ce mouvement concentra toute l'attention de Maurice sur la généreuse créature dont le premier mouvement était de le protéger. À son tour, il jeta un cri. C'était son inconnu tant cherché. « Vous, vous » s'écria-t-il. « Silence, » dit-elle. Puis, se retournant vers les assassins, qui, différentes armes à la main, s'étaient approchés de la fenêtre, « Oh, vous ne le tuerez pas !» s'écria-t-elle. « C'est un espion !» s'écria Dixmer, dont la figure douce et placide avait pris une expression de résolution implacable. « C'est un espion, et il doit mourir !»« Un espion, lui ?» dit Geneviève. « Lui, un espion !»« Venez ici, Dixmer, je n'ai qu'un mot à vous dire pour vous prouver que vous vous trompez étrangement. » Dixmer s'approcha de la fenêtre. Geneviève s'approcha de lui et, se penchant à son oreille, elle lui dit quelques mots tout bas. Le maître tanneur releva la tête. « Lui » dit-il. « Lui-même » répondit Geneviève. « Vous en êtes sûr ?» La jeune femme ne répondit point cette fois, mais elle se retourna vers Maurice et lui tendit la main en souriant. Les traits de Dixmer reprirent alors une expression singulière de mansuétude et de froideur. Il posa la crosse de sa carabine à terre. « Alors, c'est autre chose, » dit-il. Et puis, faisant signe à ses compagnons de le suivre, il s'écarta avec eux, leur dit quelques mots, après lesquels ils s'éloignèrent. « Cachez cette bague, » murmura Geneviève pendant ce temps. « Tout le monde la connaît ici. » Maurice ôta vivement la bague de son doigt et la glissa dans la poche de son gilet. Un instant après, la porte du pavillon s'ouvrit et Dixmer, sans armes, s'élança vers Maurice. « Pardon, citoyen, lui dit-il, que n'ai-je su plus tôt les obligations que je vous avais ? Ma femme, tout en se souvenant du service que vous lui avez rendu dans la soirée du 10 mars, avait oublié votre nom. » Nous ignorions donc complètement à qui nous avions affaire. Sans cela, croyez-le bien, nous n'eussions pas un instant suspecté votre honneur, ni soupçonné vos intentions. Ainsi donc, pardon encore une fois. » Maurice était stupéfait. Il se tenait debout par un miracle d'équilibre. Il sentait que la tête lui tournait. Il était prêt de tomber. Il s'appuya à la cheminée. « Mais enfin, dit-il, pourquoi vouliez-vous donc me tuer ?» « Voilà le secret, citoyen, » dit Dixmer, « et je le confie à votre loyauté. Je suis, comme vous savez déjà, maître tanneur et chef de cette tannerie. La plupart des acides que j'emploie pour la préparation de mes pots sont des marchandises prohibées. Or, les contrebandiers que j'emploie avaient avis d'une délation faite au Conseil général. Vous voyant prendre des informations, j'ai eu peur. Mes contrebandiers ont eu encore plus peur que moi de votre bonnet rouge et de votre air décidé, et je ne vous cache pas que votre mort était résolue. « Je le sais, par Dieu bien !» s'écria Maurice. « Vous ne m'apprenez là rien de nouveau. J'ai entendu votre délibération et j'ai vu votre carabine. » « Je vous ai déjà demandé pardon, » reprit Dixmer d'un air de bonhomie attendrissante. « Comprenez donc ceci, que, grâce au désordre du temps, nous sommes, moi et mon associé, M. Morand, en train de faire une immense fortune. Nous avons la fourniture des sacs militaires. Tous les jours, nous en faisons confectionner 1 500 ou 2 000. grâce au bienheureux état de choses dans lequel nous vivons, la municipalité, qui a fort à faire, n'a pas le temps de vérifier bien exactement nos comptes, de sorte, il faut bien l'avouer, que nous pêchons un peu en eau trouble, d'autant plus, comme je vous le disais, que les matières préparatoires que nous nous procurons par contrebande nous permettent de gagner 200%. « Diable, fit Maurice, cela me paraît un bénéfice assez honnête, et je comprends maintenant votre crainte qu'une dénonciation de ma part ne me fît cesser. Mais maintenant que vous me connaissez, vous êtes rassuré, n'est-ce pas ? Maintenant, dit Dismer, je ne vous demande même plus votre parole. » Puis, lui posant la main sur l'épaule et le regardant avec un sourire, « Voyons, lui dit-il, à présent que nous sommes en petit comité, et entre amis, je puis le dire, que veniez-vous faire par ici, jeune homme ?»« Bien entendu, ajouta le maître tanneur, que si vous voulez vous taire, vous êtes parfaitement libre. »« Mais je vous l'ai dit, je crois, balbutia Maurice. » « Oui, une femme, dit le bourgeois, je sais qu'il était question d'une femme. » « Mon Dieu, pardonnez-moi, citoyen, dit Maurice, mais je comprends à merveille que je vous dois une explication. Eh bien, je cherchais une femme qui, l'autre soir, sous le masque, m'a dit demeurer dans ce quartier. Je ne sais ni son nom, ni sa position, ni sa demeure, seulement je sais que je suis amoureux fou. » Qu'elle est petite, Geneviève était grande, qu'elle est blonde et qu'elle a l'air éveillée. Geneviève était brune et avait de grands yeux pensifs. Une grisette, enfin, continua Maurice aussi, pour lui plaire, et je pris cet habit populaire. Voilà qui explique tout, dit Dixmer avec une foi angélique que ne démentait point le moindre regard sournois. Geneviève avait souri et, se sentant rougir, s'était détournée. « Pauvre citoyen Lindé, dit Dixmer en riant, quelle mauvaise heure nous vous avons fait passer, mais vous êtes bien le dernier à qui j'eusse voulu faire du mal, un si bon patriote, un frère, mais en vérité j'ai cru que quelque mal intentionné usurpait votre nom. » « Ne parlons plus de cela, dit Maurice, qui comprit qu'il était temps de se retirer. Remettez-moi dans mon chemin et oublions. »« Vous remettre dans votre chemin, s'écria Dixmer. Vous quittez. Ah, non, pas, non, pas. Je donne ou plutôt mon associé. Moi, nous donnons ce soir à souper au brave garçon qui voulait vous égorger tout à l'heure. Je compte bien vous faire souper avec eux pour que vous voyez qu'ils ne sont point si diables qu'ils en ont l'air. » « Mais, dit Maurice, au comble de la joie de rester quelques heures près de Geneviève, je ne sais vraiment si je dois accepter. »« Comment, si vous devez accepter, dit Dixmer, je le crois bien, ce sont de bons et francs patriotes, comme vous. D'ailleurs, je ne croirai que vous m'avez pardonné que lorsque nous aurons rompu le pain ensemble. » Geneviève ne disait pas un mot. Maurice était au supplice. « C'est qu'en vérité, balbutia le jeune homme, je crains de vous gêner, citoyen, ce costume, ma mauvaise mine. » Geneviève le regarda timidement. « Nous offrons de bon cœur, dit-elle. « J'accepte, citoyenne, répondit Maurice en s'inclinant. « Eh bien, je vais rassurer nos compagnons, dit le maître tanneur. Chauffez-vous en attendant, cher ami. » Il sortit. Maurice et Geneviève restèrent seuls. « Ah, monsieur, dit la jeune femme avec un accent auquel elle essayait inutilement de donner le ton du reproche, vous avez manqué à votre parole, vous avez été indiscret. »« Quoi, madame, s'écria Maurice, vous aurais-je compromise ? Ah, dans ce cas, pardonnez-moi, je me retire et jamais... » « Dieu ! S'écria-t-elle en se levant, vous êtes blessé la poitrine, votre chemise est toute teinte de sang !» En effet, sur la chemise si fine et si blanche de Maurice, chemise qui faisait un étrange contraste avec ses habits grossiers, une large plaque de rouge s'était étendue et avait séché. « Oh, n'ayez aucune inquiétude, madame, dit le jeune homme, un des contrebandiers m'a piqué avec son poignard. » Geneviève pâlit et lui prenant la main, « Pardonnez-moi, murmura-t-elle, le mal qu'on vous a fait. Vous m'avez sauvé la vie, et j'ai failli être cause de votre mort. Ne suis-je pas bien récompensé en vous retrouvant, car, n'est-ce pas, vous n'avez pas cru un instant que ce fût une autre que vous que je cherchais. Venez avec moi, interrompit Geneviève, je vous donnerai du linge. Il ne faut pas que nos convives vous voient en cet état, ce serait pour eux un reproche trop terrible. Je vous gêne bien, n'est-ce pas? Répliqua Maurice en souriant. Pas du tout, j'accomplis un devoir, et elle ajouta, je l'accomplis même avec grand plaisir. Geneviève conduisit alors Maurice vers un grand cabinet de toilette d'une élégance et d'une distinction qu'il ne s'attendait pas à trouver dans la maison d'un maître tanneur. Il est vrai que ce maître tanneur paraissait millionnaire. Puis elle ouvrit toutes les armoires. « Prenez, dit-elle, vous êtes chez vous. » Et elle se retira. Quand Maurice sortit, il trouva Dixmer qui était revenu. « Allons, allons, dit-il, à table, on n'attend plus que vous. » Lorsque Maurice entra avec Dixmer et Geneviève dans la salle à manger, située dans le corps des bâtiments où on l'avait conduit d'abord, le souper était tout dressé, mais la salle était encore vide. Il vit entrer successivement tous les convives au nombre de 6. C'étaient tous des hommes d'un extérieur agréable, jeunes pour la plupart, vêtus à la mode du jour, 2 ou 3 même avaient la carmagnole et le bonnet rouge. Dixmer le présenta Maurice en énonçant ses titres et qualités. Puis, se tournant vers Maurice, « Vous voyez, dit-il, citoyen lindais, toutes les personnes qui m'aident dans mon commerce. » Grâce au temps où nous vivons, grâce aux principes révolutionnaires qui ont effacé la distance, nous vivons tous sur le pied de la plus sainte égalité. Tous les jours, la même table nous réunit 2 fois, et je suis heureux que vous ayez bien voulu partager notre repas de famille. Allons, à table, citoyens, à table. Et monsieur Morand, dit timidement Geneviève, ne l'attendons-nous pas? « Ah, c'est vrai, répondit Dixmer, le citoyen Morand, dont je vous ai déjà parlé, citoyen lindais, est mon associé. C'est lui qui est chargé, si je puis dire, de la partie morale de la maison. Il fait les écritures, tient la caisse, règle les factures, donne et reçoit l'argent, ce qui fait que c'est celui de nous tous qui a le plus de besogne. Il en résulte qu'il est quelquefois en retard. Je vais le faire prévenir. » En ce moment, la porte s'ouvrit et le citoyen Morand entra. C'était un homme de petite taille, brun, aux sourcils épais, des lunettes vertes, comme en portent la plupart des hommes dont la vue est fatiguée par le travail, cachaient ses yeux noirs, mais n'empêchaient pas l'étincelle d'en jaillir. Au premier mot qu'il dit, Maurice reconnut cette voix douce et impérieuse à la fois qui avait été constamment dans cette terrible discussion dont il avait été victime par les voix de douceur. Il était vêtu d'un habit brun à larges boutons, d'une veste de soie blanche, et son jabot assez fin fut souvent pendant le souper tourmenté par une main dont Maurice, sans doute parce que c'était celle d'un marchand tanneur, admira la blancheur et la délicatesse. On prit place. Le citoyen Morand fut placé à la droite de Geneviève, Maurice à sa gauche. Dixmer s'assit en face de sa femme. Les autres convives prirent indifféremment leur poste autour d'une table oblongue. Le souper était recherché. Dixmer avait un appétit d'industriel et faisait, avec beaucoup de bonhomie, les honneurs de sa table. Les ouvriers, ou ceux qui passaient pour tels, lui faisaient, sous ce rapport, bonne et franche compagnie. Le citoyen Morand parlait peu, mangeait moins encore, ne buvait presque pas, et riait rarement. Maurice, peut-être à cause des souvenirs que lui rappelait sa voix, éprouva bientôt pour lui une vive sympathie. Seulement, il était en doute sur son âge et ce doute l'inquiétait. Tantôt il prenait pour un homme de 40 à 45 ans et tantôt pour un tout jeune homme. Dixmer se crut, en se mettant à table, obligé de donner à ses convives une sorte de raison à l'admission d'un étranger dans leur petit cercle. Il s'en acquitta, en homme naïf et peu habitué à mentir. Mais les convives ne paraissaient pas difficiles en matière de raison, à ce qu'il paraît, car malgré toute la maladresse que mit le fabricant de pelleteries dans l'introduction du jeune homme, son petit discours d'introduction satisfit tout le monde. Maurice le regardait avec étonnement. Sur mon honneur, se disait-il en lui-même, je crois que je me trompe moi-même. Est-ce bien là le même homme qui, l'œil ardent, la voix menaçante, me poursuivait, une carabine à la main, et voulait absolument me tuer il y a 3/4 d'heure? En ce moment-là, je l'eusse pris pour un héros, pour un assassin, hein, morbleu, comme l'amour des pelleteries vous transforme un homme. Il y avait au fond du cœur de Maurice, tandis qu'il faisait toutes ces observations, une douceur et une joie si profondes toutes deux que le jeune homme n'eût pu se dire au juste quelle était la situation de son âme. Il se retrouvait enfin près de cette belle inconnue qu'il avait tant cherchée. Le son de sa voix, toutes les fois qu'elle résonnait, faisait vibrer jusqu'aux cordes les plus secrètes de son cœur, mais ce cœur était brisé par ce qu'il voyait. Geneviève était bien telle qu'il l'avait entrevue. Ce rêve d'une nuit orageuse, la réalité ne l'avait pas détruit. C'était bien la jeune femme élégante, à l'œil triste, à l'esprit élevé. C'était bien ce qui était arrivé si souvent dans les dernières années qui avaient précédé cette fameuse année 93 dans laquelle on se trouvait. C'était bien la jeune fille de distinction, obligée à cause de la ruine toujours plus profonde dans laquelle était tombée la noblesse de s'allier à la bourgeoisie, au commerce. Dixmer paraissait un brave homme. Il était riche, incontestablement. Ses manières avec Geneviève semblaient être celles d'un homme qui prend à tâche de rendre une femme heureuse. Mais cette bonhomie, cette richesse, ces intentions excellentes, pouvaient-elles combler cette immense distance qui existait entre la femme et le mari, entre la jeune fille poétique, distinguée et charmante, et l'homme aux occupations matérielles et à l'aspect vulgaire? Avec quel sentiment Geneviève comblait-elle cet abîme? Hélas! Le hasard le disait assez maintenant à Maurice, avec l'amour, et il fallait bien en revenir à cette première opinion qu'il avait eue de la jeune femme, c'est-à-dire que le soir où il l'avait rencontrée, elle revenait d'un rendez-vous d'amour. Cette idée que Geneviève aimait un homme torturait le cœur de Maurice. Puis, en d'autres moments, en écoutant cette voix si douce, si pure et si harmonieuse, en interrogeant ce regard si limpide, qui semblait ne pas craindre que par lui on pût lire jusqu'au tréfonds de son âme, Maurice en arrivait à croire qu'il était impossible qu'une pareille créature pût tromper. Et alors il éprouvait une joie amère à songer que ce beau corps, âme et matière, appartenait à ce bon bourgeois, au sourire honnête, aux plaisanteries vulgaires, et ne serait jamais qu'à lui. On parla politique, ça ne pouvait être autrement. Que dire à une époque où la politique se mêlait à tout, était peinte au fond des assiettes, couvrait toutes les murailles, était proclamée à chaque heure dans les rues. Tout à coup, un des convives qui jusque-là avait gardé le silence demanda des nouvelles des prisonnières du temple. Maurice tressaillit malgré lui au timbre de cette voix. Il avait reconnu l'homme qui, toujours pour les moyens extrêmes, l'avait d'abord frappé de son couteau et avait ensuite voté pour la mort. Cependant, cet homme, honnête tailleur, chef de l'atelier, du moins Dixmer le proclama-t-elle, réveilla bientôt la belle humeur de Maurice en exprimant les idées les plus patriotiques et les principes les plus révolutionnaires. Le jeune homme, dans certaines circonstances, n'était point ennemi de ces mesures vigoureuses, si fort à la mode à l'époque, et dont Danton était l'apôtre et le héros. À la place de cet homme dont l'arme et la voix lui avaient fait éprouver, et lui faisaient éprouver encore de si poignantes sensations, il n'eût pas assassiné celui qui l'eût pris pour un espion, mais il l'eût lâché dans un jardin, et là, à armes égales, un sabre à la main, comme son adversaire, il l'eût combattu sans merci, sans miséricorde. Voilà ce qu'eût fait Maurice, mais il comprit bientôt que c'était trop demandé d'un garçon tanneur que de demander qu'il fît ce que Maurice aurait fait. Cet homme, aux mesures extrêmes et qui paraissait voir dans ses idées politiques les mêmes systèmes violents que dans sa conduite privée, parlait donc du temple et s'étonnait que l'on confiât la garde de ses prisonniers à un conseil permanent, facile à corrompre, et à des municipaux dont la fidélité avait été plus d'une fois déjà tentée. Oui, dit le citoyen Morand, mais il faut convenir qu'en toute occasion, jusqu'à présent, la conduite de ces municipaux a justifié la confiance que la nation avait en eux. L'histoire dira qu'il n'y avait pas que le citoyen Robespierre qui mérita le surnom d'incorruptible. Sans doute, reprit l'interlocuteur, mais de ce qu'une chose n'est point arrivée encore, il serait absurde de conclure qu'elle n'arrivera jamais. C'est comme pour la garde nationale, continua le chef d'atelier. Eh bien, les compagnies des différentes sections sont convoquées chacune à leur tour pour le service du temple, et cela indifféremment. Eh bien, n'admettez-vous point qu'il puisse y avoir, dans une compagnie de 20 ou 25 hommes, un noyau de 8 ou 10 gaillards bien déterminés qui, une belle nuit, égorge les sentinelles et enlève les prisonniers? Bah, dit Maurice, tu vois, citoyen, que c'est un mauvais moyen, puisque il y a 3 semaines ou 1 mois, on a voulu l'employer et qu'on n'a point réussi. Oui, reprit Morand, mais parce qu'un des aristocrates qui composait la patrouille a eu l'imprudence, en parlant à je ne sais qui, de laisser échapper le mot « monsieur ». Et puis, dit Maurice, qui tenait à prouver que la police de la République était bien faite, parce qu'on s'était déjà aperçu de l'entrée du chevalier de Maison Rouge dans Paris. « Bah !» s'écria Dixmeur. On savait que Maison Rouge était entré dans Paris, demanda froidement Morand. Savait-on par quel moyen il était entré? Parfaitement. Ah, diable, dit Morand, en se penchant en avant pour regarder Maurice. Je serais curieux de savoir cela. Jusqu'à présent, on n'a rien pu nous dire encore de positif là-dessus. Mais vous, citoyen, vous, le secrétaire d'une des principales sections de Paris, vous devez être mieux renseigné. Sans doute, dit Maurice aussi, ce que je vais vous dire est l'exacte vérité. Tous les convives, et même Geneviève, parurent accorder la plus grande attention à ce qu'allait dire le jeune homme. Eh bien, dit Maurice, le chevalier de Maison Rouge venait de Vendée, à ce qu'il paraît. Il avait traversé toute la France avec son bonheur ordinaire. Arrivé pendant la journée à la barrière du Roule, il a attendu jusqu'à 9 heures du soir. À 9 heures du soir, une femme déguisée en femme du peuple est sortie par cette barrière, portant au chevalier un costume de chasseur de la garde nationale. 10 minutes après, elle est rentrée avec lui. La sentinelle qu'il avait vue sortir seule a eu des soupçons en la voyant rentrer accompagnée. Elle a donné l'alarme au poste. Le poste est sorti. Les deux coupables, ayant compris que c'était à eux qu'on en voulait, se sont jetés dans un hôtel qui leur a ouvert une seconde porte sur les Champs-Élysées. Il paraît qu'une patrouille, toute dévouée au tyran, attendait le chevalier au coin de la rue Bardubec. Vous savez le reste. « Ah !» dit Morand, « c'est curieux ce que vous nous racontez là. »« Et surtout positif !» dit Maurice. Oui, ça en a l'air, mais la femme, sait-on ce qu'elle est devenue? Non, elle a disparu. On ignore complètement qui elle est et ce qu'elle est. L'associé du citoyen Dixmer et le citoyen Dixmer lui-même parut respirer plus librement. Geneviève avait écouté tout ce récit, pâle, immobile et muette. Mais, dit le citoyen Morand avec sa froideur ordinaire, qui peut dire que le chevalier de Maison Rouge faisait partie de cette patrouille qui a donné l'alarme au temple? Un municipal de mes amis qui ce jour-là était de service au temple l'a reconnu. Il savait donc son signalement. Il l'avait vu autrefois. Et quel homme est-ce physiquement que ce chevalier de Maison Rouge? Demanda Morand. Un homme de 25 à 26 ans, petit, blond, d'un visage agréable, avec des yeux magnifiques et des dents superbes. Il se fit un profond silence. « Eh bien, dit Morand, si votre ami, le municipal, a reconnu ce prétendu chevalier de Maison Rouge, pourquoi ne l'a-t-il pas arrêté ? D'abord parce que, ne sachant pas son arrivée à Paris, il a craint d'être dupe d'une ressemblance, et puis mon ami est un peu tiède, il a fait ce que font les sages et les tièdes, dans le doute, il s'est abstenu. « Vous n'auriez pas agi ainsi, citoyen ?» dit Dixmer à Maurice en riant brusquement. « Non, dit Maurice, je l'avoue, j'aurais mieux aimé me tromper que de laisser échapper un homme aussi dangereux que l'est le chevalier de Maison Rouge. » Et qu'eussiez-vous donc fait, monsieur? Demanda Geneviève. Ce que j'eusse fait, citoyenne, dit Maurice. Oh, mon Dieu, ce n'eût pas été long. J'eusse fait fermer toutes les portes du temple, j'eusse été droit à la patrouille, et j'eusse mis la main sur le collet du chevalier en lui disant, chevalier de Maison Rouge, je vous arrête comme traître à la nation. Et une fois que je lui eusse mis la main au collet, je ne l'eusse point lâché, je vous en réponds. Mais que serait-il arrivé? Demanda Geneviève. Il serait arrivé qu'on lui aurait fait son procès à lui et à ses complices, et qu'à l'heure qu'il est, il serait guillotiné, voilà tout. Geneviève frissonna et lança à son voisin un coup d'œil d'effroi. Mais le citoyen Morand ne parut pas remarquer ce coup d'œil et vidant flegmatiquement son verre. Le citoyen Lindet a raison, dit-il. Il n'y avait que cela à faire. Malheureusement, on ne l'a pas fait. Et, demanda Geneviève, sait-on ce qu'est devenu ce chevalier de Maison Rouge? Bah, dit Dixmer, il est probable qu'il n'a pas demandé son reste et que, voyant sa tentative avortée, il aura quitté immédiatement Paris. Et peut-être la France, ajouta Morand. Pas du tout, pas du tout, dit Maurice. Comment, il a eu l'imprudence de rester à Paris? S'écria Geneviève. Il n'en a pas bougé. Un mouvement général d'étonnement accueillit cette opinion émise par Maurice avec une si grande assurance. C'est une présomption que vous émettez là, citoyen, dit Morand. Une présomption, voilà tout. Non pas, c'est un fait que j'affirme. Oh, dit Geneviève, j'avoue que pour mon compte, je ne puis croire à ce que vous dites, citoyen. Ce serait d'une imprudence impardonnable. Vous êtes femme, citoyenne. Vous comprendrez donc une chose qui a dû emporter chez un homme du caractère du chevalier de Maison Rouge sur toutes les considérations de sécurité personnelle possible. Et quelle chose peut l'emporter sur la crainte de perdre la vie d'une façon si affreuse? Eh, mon Dieu, citoyenne, dit Maurice, l'amour. L'amour? Répéta Geneviève. Sans doute. Ne savez-vous donc pas que le chevalier de Maison Rouge est amoureux d'Antoinette? Deux ou trois rires d'incrédulité éclatèrent, timides et forcés. Dixmer regarda Maurice comme pour lire jusqu'au fond de son âme. Geneviève sentit des larmes lui mouiller les yeux et un frissonnement qui ne put échapper à Maurice courut par tout son corps. Le citoyen Morand répandit le vin de son verre qu'il portait en ce moment à ses lèvres, et sa pâleur eût effrayé Maurice si toute l'attention du jeune homme n'eût été en ce moment concentrée sur Geneviève. Vous êtes émue, citoyenne, murmura Maurice. N'avez-vous pas dit que je comprendrais parce que j'étais femme? Eh bien, nous autres femmes, un dévouement, si opposé qu'il soit à nos principes, nous touche toujours. Et celui du chevalier de Maison Rouge est d'autant plus grand, dit Maurice, qu'on assure qu'il n'a jamais parlé à la reine. Ah ça, citoyen Lindet, dit l'homme aux moyens extrêmes, il me semble, permets-moi de te le dire, que tu es bien indulgent pour ce chevalier. Monsieur, dit Maurice, en se servant peut-être avec intention du mot qui avait cessé d'être en usage, j'aime toutes les natures fières et courageuses, ce qui ne m'empêche pas de les combattre quand je les rencontre dans les rangs de mes ennemis. Je ne désespère pas de rencontrer un jour le chevalier de Maison Rouge. Et, fit Geneviève, et si je le rencontre, eh bien, je le combattrai. Le souper était fini. Geneviève donna l'exemple de la retraite en se levant elle-même. En ce moment, la pendule sonna. Minuit! S'écria Maurice. Minuit déjà! Voilà une exclamation qui me fait plaisir, dit Dixmer. Elle prouve que vous ne vous êtes pas ennuyé et elle me donne l'espoir que nous nous reverrons. C'est la mission d'un bon patriote qu'on vous ouvre et j'espère que vous vous apercevrez bientôt, citoyen, que c'est celle d'un ami. Maurice salua et se retournant vers Geneviève, la citoyenne me permet-elle aussi de revenir? Demanda-t-il. Ah, je fais plus que de le permettre, je vous prie, dit vivement Geneviève. Adieu, citoyen. Et elle rentra chez elle. Maurice prit congé de tous les convives, salua particulièrement Morand, qui lui avait beaucoup plu, serra la main de Dixmer et partit, étourdi, mais bien plus joyeux qu'attristé, de tous les événements si différents les uns des autres qui avaient agité sa soirée. Fâcheuse rencontre, dit après la retraite de Maurice la jeune femme, fondant en larmes en présence de son mari, qui l'avait reconduite chez elle. Bah, le citoyen Maurice Lindet, patriote reconnu, secrétaire d'une section, pure, adorée, populaire et, au contraire, une bien précieuse acquisition pour un pauvre tanneur qui a chez lui de la contrebande, répondit Dixmer en souriant. « Si vous croyez, mon ami, » demanda timidement Geneviève, « je crois que c'est un brevet de patriotisme, un cachet d'absolution qu'il pose sur notre maison. Et je pense qu'à partir de cette soirée, le chevalier de Maison Rouge lui-même serait en sûreté chez nous. » Et Dixmer, baisant sa femme au front avec une affection bien plus paternelle que conjugale, la laissa dans ce petit pavillon qui lui était entièrement consacré et repassa dans l'autre partie du bâtiment qu'il habitait avec les convives que nous avons vus entourer sa table.